VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Panique jeudi soir à Dallas, au Texas, pendant une manifestation antiraciste. 5 policiers ont été tués et 7 autres blessés dans une action apparemment coordonnée. S'exprimant à Varsovie en Pologne, le président Barack Obama a dénoncé des attaques haineuses, calculées et méprisables pour lesquelles il n'existe pas de justification. L'un des suspects qui s'était retranché dans un bâtiment à Dallas est mort au terme d'un face-à-face avec des unités d'élite. Plus de détails avec Anne Albertson.
Deux suspects étaient en garde à vue selon la police de Dallas. L'un d'eux s'est rendu aux autorités et l'autre, en garde à vue, avait échangé des tirs avec des membres du SWAT, la force d'intervention de la police, a précisé la police de Dallas dans un communiqué publié sur son compte Twitter. Le chef de la police de Dallas, David Brown, a indiqué dans un communiqué que 2 snipers ont tiré sur 10 policiers depuis une position en hauteur pendant une manifestation. Selon les chaînes de télévision locales, les tirs se sont produits jeudi soir, peu après la fin d'un rassemblement pour protester après la mort de 2 hommes noirs abattus par la police cette semaine, l'un en Louisiane, l'autre dans le Minnesota.
Afrique de l'Ouest, au Nigeria, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger, NDA, a revendiqué aujourd'hui le sabotage dans la nuit de jeudi à vendredi d'un oléoduc d'une filiale de la société pétrolière italienne Eni dans le sud du pays. La dernière en date d'une série d'attaques contre les installations pétrolières dans la région. Selon le porte-parole des NDA, Nudoc Agbinibo, les membres du groupe ont fait sauter les portions 1, 2 et 3 de l'oléoduc Nembe dans les états de Bayelsa et Rivers. Côté gouvernement, Desmond Agu, un responsable de la sécurité et de la défense civile du Nigeria, a annoncé qu'une enquête est en cours pour déterminer l'étendue des dégâts. Les Vengeurs du Delta du Niger réclament entre autres le départ des compagnies pétrolières étrangères de la région méridionale du pays qui reste déshérité malgré les revenus du pétrole. Ils souhaitent aussi l'autodétermination de la région du Delta. Au Mali, réaménagement technique du gouvernement, la taille de l'équipe gouvernementale passe de 32 à 34 membres et les représentants des groupes armés font leur entrée dans cette nouvelle équipe qui est toujours dirigée par le Premier ministre Modibo Keïta. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'équipe gouvernementale était très attendue à Bamako. Finalement, la liste a été rendue publique par le ministre secrétaire général de la présidence. Le nombre de femmes passe de 6 à 8. Dans la nouvelle équipe, il y a 9 nouveaux ministres, 7 ont quitté. Parmi les ministres qui ont quitté, Zabi Sidi Mohamed a été remplacé par Mohamed El Mokhtar, un ancien ministre sous ATT, tout comme Tchamogo Sangaré qui hérite du ministère des Mines. Certains ministères ont été scindés, à l'image de la culture qui se détache de l'artisan. Désormais dirigé par Nina Wallet Intalou, représentante de la CMA, ou encore la jeunesse et la construction citoyenne, un département qui sera dirigé par le nouveau ministre Amadou Koïta. Parmi les nouveaux entrants, on peut citer aussi Maître Mamadou Ismaël Konaté, qui dirigera désormais le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et Garde des Sceaux. Certains ténors se maintiennent dans l'équipe gouvernementale, comme Mohamed Ali Batili au ministère des Domaines de l'État, Amadou Konaté à la Solidarité et à l'Action Humanitaire, ou encore Tchema Hubert Koulibaly, qui reste à la défense. En tout, il y a 34 portefeuilles ministériels contre 32 pour l'équipe sortante. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Politique en RDC maintenant, les Nations Unies avertissent que sans un sérieux dialogue politique national, les tensions politique actuelle en République démocratique du Congo pourrait dégénérer en une crise sévère, voire violente. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Yann Eliasson, a souligné que les tensions politiques augmentaient en prélude aux élections présidentielles et législatives envisagées par la Constitution. La polarisation politique et le mécontentement public sont alimentés par les retards dans le processus électoral, le débat autour du respect de la Constitution et les restrictions croissantes concernant l'espace démocratique, a expliqué M. Eliasson lors d'un briefing hier devant le Conseil de sécurité. Il y a de grandes craintes au Congo selon lesquelles le président Joseph Kabila, qui doit quitter le pouvoir à la fin de l'année, pourrait retarder les élections afin de se cramponner au pouvoir. La Cour constitutionnelle de la RDC a au demeurant décidé en mai que le président et les membres du Parlement pouvaient rester à leur poste jusqu'à l'installation de nouveaux élus. M. Kabila a proposé la tenue d'un dialogue national, mais pas d'accord jusqu'ici sur ce thème et qui va y participer. L'opposition a exprimé de la réticence à ce sujet. Le représentant permanent du Congo, Ignace Gata Mavita, a démenti que l'espace politique se rétrécisse dans son pays et souligné que son gouvernement veut organiser des élections libres conformément à tous les critères internationaux dans un climat apaisé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Angola, le président angolais José Eduardo dos Santos est l'unique candidat à la présidence du MPLA. C'est ce qu'a décidé le comité central du parti au pouvoir que citent les médias d'État angolais. Les précisions de Michel Joseph.
Cette annonce met fin aux spéculations selon lesquelles le chef de l'État angolais pourrait laisser cette place à quelqu'un d'autre. Au pouvoir depuis 1979, le président dos Santos avait fait part en mars dernier de son intention de quitter le pouvoir en 2018 sans fournir de raison. Il n'avait rien dit non plus concernant son éventuel successeur. Le congrès du MPLA, qui élira le chef du parti, se tiendra au mois d'août, suivi en fin 2017 d'élections générales. Le leader du parti, vainqueur de ces élections, deviendra le président de la République. Principal producteur africain de pétrole, l'Angola a été sérieusement affecté par la chute mondiale des cours de l'or noir, ce qui s'est traduit par une pression accrue sur le kwanza, sa monnaie nationale, avec une inflation galopante. Après avoir sollicité l'aide du Fonds monétaire international, les autorités angolaises ont indiqué la semaine dernière qu'elles mettaient fin au pourparlers avec le fonds. Certains analystes craignent maintenant une récession ainsi qu'une crise de la dette en Angola.
Au Burundi, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme basée à New York, dénonce la torture des opposants par les services de renseignement. L'ONG internationale parle aussi du comportement de miliciens tortionnaires proches du pouvoir qui procèdent à des arrestations illégales. Écoutons les précisions de la chercheuse principale de Human Rights Watch, Karina Tersakian.
Les jeunes du parti au pouvoir, ceux qu'on appelle les Imbonerakure, qui sont des membres de la ligue officielle des jeunes du parti au pouvoir, travaillent étroitement avec les services de renseignement et avec la police pour intimider, torturer et commettre d'autres exactions envers des personnes soupçonnées d'être des opposants. Les Imbonerakure, eux aussi, se sont rendus responsables de graves exactions. Les Nations Unies ont compté 651 cas de torture entre avril 2015 et avril 2016, mais nous pensons que le chiffre réel serait bien supérieur.
Karina Tersakian, chercheuse principale de Human Rights Watch. Le premier ministre indien Narendra Modi poursuit sa tournée en Afrique. À son programme, 4 pays, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie et Kenya. Sa tournée est destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face à la Chine qui est déjà bien implantée sur le continent. Une série d'accords de coopération avec le Mozambique, première étape de la tournée, a été conclue dans les domaines de la santé, l'agriculture, la défense et la sécurité. Écoutons l'analyse de l'économiste et avocat d'affaires Jamal Taleb.
Il est logique que l'Inde, qui organise un sommet avec l'Union africaine et donc l'ensemble des pays africains, soit intéressée à son tour par ce que représente le marché africain. Le partenariat est sans doute gagnant-gagnant, vu de ce point de vue-là. Le problème, c'est que la capacité, encore une fois, de suivi financièrement parlant de l'Inde est assez faible. Et donc, les possibilités pour Exim Bank India d'accompagner le développement commercial de l'Inde sur le continent africain restent tout de même assez limitées.
L'économiste et avocat d'affaires Jamal Taleb. Concernant le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le chef de l'exécutif américain Barack Obama s'est dit confiant en un départ ordonné de la Grande-Bretagne de l'UE, et ce afin de préserver la stabilité financière et la croissance mondiale. J'ai confiance dans l'aptitude du Royaume-Uni et de l'UE à négocier une transition ordonnée vers une nouvelle relation, alors que tous nos pays restent concentrés sur la stabilité financière et la croissance de l'économie mondiale, a écrit le président Obama dans une tribune publiée par le quotidien Financial Times. Et pour terminer, Euro 2016 de football, le Portugal et la France s'affrontent en finale de l'Euro dimanche soir après l'élimination de l'Allemagne, championne du monde, par le pays hôte hier en demi-finale sur le score de 2-0. D'un côté, l'équipe de France soutenue par un élan populaire qui va crescendo au fur et à mesure du tournoi et dont les Bleus espèrent qu'il les portera jusqu'au bout comme au Mondial 98.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.